Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt. Les mecs que je veux ken. Hello les amis, bienvenue dans ce 5e épisode, déjà, des meufs que je veux ken. On en est à la moitié. Vous m'avez fait de super retours sur les 4 premiers avec Marina, Laura, Adrienne et ma mère. Je vais en lire là quelques-uns sans citer vos noms. Premier retour sur l'épisode 31. Je viens juste de commencer l'épisode avec Marina et déjà deux pépites. Elle, moi les flamands ça m'excite à fond. Toi, la carrière sentimentale de Nicolas Bedos, c'est la liste de Schindler du cul, drop the mic. Suivi d'un smiley qui rigole. Trop chaud. Un petit retour sur l'épisode 32. Je suis dans le train, en train de vous écouter. L'histoire de Laura est dingo ! Plein de haut. Et oui, je crois en ref à Olivier et Olivia. Et en effet, palme de l'anecdote perso la plus ouf remise à Laura Domange. Retour sur l'épisode avec ma mère. Trop mignon, je vous lis. Bonjour Rosa. Merci pour ce podcast très touchant avec ta maman. J'ai pas toujours le temps d'écouter tous les épisodes, c'est parfois long, une heure à trouver. Mais celui-là, j'ai foncé à aller l'écouter. C'est tendre, sincère, honnête, émouvant. D'autant que ta mère évoque sa maladie de façon brève et pudique, tout en pensant déjà à l'après, et ça c'est chouette. Merci pour ce beau moment parmi les autres. Continue ainsi et passe de belles fêtes de fin d'année, même seule avec Minou. L'important, c'est de savoir que les autres sont présents dans ton cœur, même s'ils ne sont pas là physiquement avec toi. Adorable. J'étais pas seule, hein. Pour Noël, j'étais dans la famille d'Adrienne, c'était génial, peut-être mon meilleur Noël. D'ailleurs, je termine avec un dernier retour sur l'épisode 34. L'interview d'Adrienne est très sympa, belle preuve d'amour mutuel. Voilà. Moi, je suis ravie, là je suis de bonne humeur, je pars le 2 janvier à l'île aux Moines rejoindre mon père. J'espère qu'on va pas s'entretuer et surtout qu'il me laissera travailler tranquillement. Et puis s'il me casse les couilles, bah, je rentrerai, mais ça serait chiant. Et puis après, c'est à moi de mettre des limites. Ou alors d'avoir des discussions assez extérieures avec lui, en fait, de ne pas me confier sur les choses sensibles, sur les doutes, de garder l'écriture secrète, de ça, ne pas le soumettre ça à son jugement, ne pas le laisser... Enfin, lui dire quoi, putain, papa, fous-moi la paix, laisse-moi profiter de cette baraque et de la mer. Enfin, bref, c'est même pas sa baraque. Autre sujet, j'ai envie de vous laisser à présent dans les bras de Tani, camarade humoriste qui jouait son spectacle à la Comédie des Trois Bornes avant la guerre du Covid. Nous parlons du mariage, pas toujours évident entre féminisme et humour, le climat actuel d'intransigeance sur les réseaux sociaux et notamment dans les milieux queer LGBT, comment concilier toutes les sensibilités et s'élever plutôt que se juger les unes les autres, inclure les femmes trans à la sororité, avoir le courage de partir, parfois de quitter la salle, choisir de blâmer le patriarcat plutôt que les hommes, naviguer entre les safe et les unsafe places du stand-up. Et plein d'autres questionnements, ponctués par de grands élans d'affection de Minou envers la pauvre Tani allergique. Joyeux écoute.
Ah, mais thé vert, c'est très bien.
Thé vert, ça te plaît ? Yes.
Bon, et ça va, toi ?
Écoute,
tu t'occupes... T'as fait pas mal de petits lives ou d'enregistrements encore, non ?
Ouais,
c'est ça ?
Ouais, ouais. Écoute, je continue le podcast, mais...
Toi, comment ça va ?
Bah ça va, je sais plus si on en a déjà parlé, tu sais, mais j'ai un taf à côté et du coup là cette semaine j'ai bossé tous les jours du coup.
D'accord,
et
en télétravail ou
ouais, en télétravail, ouais, ça fait bizarre, enfin c'est vrai, je suis vraiment pas sortie de chez moi depuis une semaine.
Ouais.
J'étais contente
ouais,
de prendre mon
clair.
Petit vélo et tout.
Tu m'étonnes.
Mais ouais, bah écoute, bon je suis contente parce que ça m'a donné des trucs à faire, donc il y a un truc où je me suis pas trop posé de questions, mais le soir, je suis quand même un peu dans le bad, quoi. Je me dis, mais...
C'est clair.
L'état
mais
de ce monde
c'est quoi
est
déjà
certainement bizarre.
Ton travail
Je travaille sur des projets...
C'est une asso... Non, c'est pas ça.
Non, en fait, c'est pour la direction régionale de l'environnement.
Ok.
Donc, c'est un truc un peu institutionnel, mais en fait, moi, je suis une responsable... auprès des associations.
Ok.
Et donc, je travaille avec les assos pour monter des projets ou valoriser l'éducation et l'environnement.
Ok.
Du coup, là...
Donc, c'est un chouette boulot, c'est pas... Genre...
Ouais, non, c'est ouais, cool. Ouais, non, vraiment...
Et t'es toujours avec ta nana?
Ouais, ouais, ouais.
Donc vous êtes ensemble?
Ouais, on est confinés ensemble.
Ouais. C'est celle avec qui t'étais confinée déjà pendant le premier confinement?
Tout à fait.
Putain, ça dure cette histoire, ça fait combien de temps?
Bah, on a fait nos un an, là, en septembre.
What?
Attention!
Putain! De toute façon, putain, vous avez survécu à deux confinements, ça. Là, confinement, c'est ça... du sérieux, quoi. Ouais.
Ça a fait... En vrai, ça fait 3 ans, quoi.
C'est vrai?
Non, non, mais je veux dire...
Ah ouais, c'est clair, ça, ça double...
L'effet confinement
fait que... Oui, c'est comme
que...
les années chats, quoi. Les années couple avec les... C'est tellement, tellement de temps passé ensemble. Alors, je t'écris un long...
Ah oui, c'est ça, c'est le, ouais. Le poème.
Et il est particulièrement long, mais oui, n'aie pas peur, justement, vraiment n'aie pas peur. C'est juste parce qu'il y avait tellement de choses dont j'avais envie de parler avec toi et que ça fait suite à une anecdote dont j'avais vraiment envie de te parler. Mais vraiment... n'aie pas peur, quoi.
Ça marche.
Alors, Tani est une amie humoriste, une camarade de stand-up. Nous sommes allés voir les spectacles l'une de l'autre. Je suis venue te voir, Tani, un soir à la comédie des Trois Bornes. Et la salle était blindée, le public en feu. Toi, le samedi soir où tu étais venue me voir à la petite loge, je sais plus si c'était pour ma première fois ou tenir debout, mais il n'y avait pas grand monde, c'était une représentation difficile. Mais heureusement, il y avait ta présence lumineuse dans la salle et ton rire cristallin. À chaque fois, c'est un bonheur de se croiser sur les plateaux, mais c'est toujours trop court. Alors on s'envoie des petits DM sur Insta, et là, pour une fois, on prend le temps de se voir, surtout qu'on est quasi voisines. Tani est métisse, lesbienne, et son spectacle parle du chemin parcouru entre la découverte de sa sexualité et l'acceptation de son identité. C'est un spectacle très drôle et très touchant. Tani nous inclut dans son process, sa réflexion, c'est d'une grande générosité, d'une grande douceur. Elle libère une parole taboue, car même si les temps changent et que Angèle et Marie Papillon affichent plus ou moins leur amour à l'air libre sur Insta, qu'en est-il de la représentation des personnes racisées dans l'humour, dans la société, les médias, sur les plateaux? J'aime Tani parce qu'elle me fait grandir et qu'elle s'étonne de mes contradictions sans me juger avec sévérité. Elle m'aide à moderniser mon approche du féminisme. Je ne suis pas fan du terme non-binaire, mais passionnée par la transidentité. J'appréhende l'écriture inclusive, mais continue à dire homme et femme et non personne dotée d'un pénis ou d'un clitoris. J'écoute Rokhaya Diallo, mais aussi Caroline Fourest, Zineb El Razoui et Raphaël Enthoven. Mais ma limite, et je sais, c'est Catherine Millet, c'est Deneuve, c'est Maïwenn, c'est une bonne partie du cinéma français, Berco, Kiberlin, Binoche, qui sont à l'ancienne, quoi. Ardan me fait de la peine quand elle défend Polanski. Je suis derrière Adèle, Céline, Iris Bray, j'adhère au collectif 50-50, j'écoute Les couilles sur la table, je vénère des pentes, King Kong Theory, me questionne sur la dépénalisation de la prostitution, je veux congeler mes ovocytes, suis célibataire, hétéro, romantique, j'ai lu le livre de Ronan Farrow, Catch and Kill sur la chute de Weinstein. Ronan Farrow est un héros, j'ai aussi écouté son podcast, mais je crois Scarlett Johansson, Diane Keaton et Moses, l'autre fils de Woody Allen, qui disent qu'il est innocent. Je ne vois plus les films de Woody Allen de la même manière et ça me peine parce que je l'aimais follement et c'est dur. Je ne veux pas amalgamer et mettre au même niveau, mais oui, bref, l'homme, l'artiste, tout ça à la fois, c'est con et compliqué. J'ai adoré Nanette d'Anna Gatsby, mais par contre, je continue à défendre Louis C.K. Mais j'apprends, j'avance, je me renseigne sur le féminisme intersectionnel, sur l'afroféminisme. J'ai plein de blagues où je défends les femmes voilées, mais aussi des blagues où je m'acharne contre le body positive pour revendiquer mes complexes. Et j'aime ça, lire Welbeck et Mona Chollet, être abonné sur Insta à Nicolas Bedeau et Alice Coffin. Et je préfère la politique au militantisme. Mes icônes sont Blanche Gardin, Sarah Silverman, Ali Wong, Amy Schumer, Whitney Cummings, Lena Dunham. Je trouve que les Américaines rendent le féminisme drôle, là où les Françaises, parfois, avec du retard pour moi, le rendent dur et surtout l'associent à de la censure.
Attention.
Et voilà. Et c'est quelque chose qui me pèse et je me disais que... Et il y a peu de gens dont j'ai envie de, voilà, de, comment dire, d'avoir les lumières, mais il y a des gens dont on doit demander les lumières. Parce que, de fait, je suis ni lesbienne, ni racisée. Et donc, je vis la vie différemment et je reçois pas, je traverse pas l'existence de la même manière. Donc, peut-être que certains sujets ou sur des personnes sur lesquelles qui sont ultra sensibles, ou justement, peut-être se... où moi je me dis oh! Alors que je suis pas de ce côté-là. Alors il va peut-être monter sur toi.
J'adore.
Ouais. Minou, tu demandes le consentement. Wow, non, voilà, tu vois, ça okay, c'est bien le chat de sa maman, c'est qu'il ne demande pas le consentement, okay. Minou. Il impose.
Mais on se dit bonjour comme ça. Du coup.
Ouais, il rentre très vite dans le vif du sujet.
Mais il est, ouais, il est pas timide.
Non, il est pas timide, c'est un cheval, c'est un chat chien, il adore. Ouais, ouais, il est.
Je vais pas trop le caresser après parce que.
Ah, t'es allergique,
allergique.
Ah merde, bah Minou, non.
Cette scène.
Il assume son besoin d'amour, quoi. Ouais, ouais, il t'a regardé avec. Voilà, ça y est, ça c'est le moment où il s'impose. Après, c'est son besoin d'amour et son besoin de. Voilà.
Il a besoin de beaucoup d'amour.
De beaucoup d'amour, ouais. Il
d'accord.
A, ouais, regarde, il est ultra needy. Il est ultra dépendant affectif. Après, c'est. C'est, je pense, il vit un peu sa best life avec le reconfinement.
Ah ouais, tu m'étonnes. Elle est là tout
et
le temps.
Et en plus, maintenant, j'invite les gens ici.
Bah ouais, ils voient du monde comme ça.
Mais en gros, pour d'où vient ce poème, c'est parce que ça vient, je pense, d'une blessure qui est que moi, j'ai toujours cru être une bonne féministe.
Mmh.
Tu vois, parce que ma mère l'était quand j'étais plus jeune. Ma mère, elle, était militante. C'était pas juste un point de vue. Ma mère, elle était militante. Elle a été au MLF, au planning familial, à ACT UP, et c'est plus que des manifs,
ouais,
c'est
ouais,
elle a...
Ouais, c'est
voilà,
ouais.
Non, tu vois, c'est vraiment... elle était à fond. Et en plus, elle l'était... mais je pense qu'on... Bah, c'est étonnant, et il faut que j'en parle sur scène et tout, mais ma mère, elle n'était pas épilée, elle ne mettait pas de robe, et elle ne voulait pas nous acheter de Barbie à la base, tu vois. Donc, elle a succombé, et moi... En fait, j'ai été...
Succombé à quoi ? Parce que t'as vu des Barbies ?
Ouais, mais parce que, je l'ai harcelée. Il y a eu un truc de réaction où, en fait, j'ai pas... je voulais à tout prix des Barbies. Et il y a aussi un truc, c'est que, genre, ma mère ne faisait pas faire des trucs de petite fille, genre, équitation
ah ouais.
Ou danse ou machin. Ouais, ouais, elle était à donf.
Ah ouais, c'est marrant, ça.
Et résultat, j'ai eu un truc en revers où, en fait, elle avait voulu me couper les cheveux quand j'étais petite.
Ah ouais,
à la garçonne. Et elle m'avait pas prévenue.
Okay.
Elle m'a amenée chez le coiffeur. Et en fait, elle a dit à la coiffeuse, garçonne... Et moi, je savais pas, donc je me suis... Et quand je me suis retrouvée avec la coupe à la garçonne, j'ai pété les plombs.
Ah ouais, c'est chaud.
J'ai pété les plombs, en fait. Elle m'a imposé
ouais,
ça.
Ouais, ouais. Surtout que les cheveux, c'est quelque chose, quoi.
C'est hyper intime. J'avais pas de pouls, il y avait pas une excuse en
ouais,
particulier.
Ouais.
Mais en fait, elle m'a imposé cette coupe à la garçonne. Et résultat, mais... Et que j'ai, en fait... ça a mis longtemps à repousser les cheveux.
Ouais.
Donc pendant longtemps, il y avait une espèce de... Et en plus, j'étais un peu bouboule. Et donc, je regardais les filles qui avaient des nattes, mais comme des princesses, quoi.
Ah ouais. Ah, mais c'est marrant. T'as vraiment vécu l'inverse de moi, je pense.
C'est vrai.
Parce que moi, par rapport à mes cheveux, mais j'en parle du coup dans le spectacle.
Oui.
Ma mère, elle avait le bon discours, si tu veux. Elle me disait, mais Tani, tes cheveux, ils sont beaux. Arrête de les attacher. Quand j'étais toute petite, elle me faisait des coupes, j'avais mon afro et tout, mais c'est moi après qui ai demandé à défriser,
ouais.
Parce que je voulais être comme les filles de ma classe et tout. Et,
d'accord.
Et ouais, du coup, elle me disait, bon, bah oui, si c'est ça que tu veux, vas-y,
ouais.
Te faire défriser, mais
ouais.
J'étais... Enfin, si, ouais, si elle aurait pu m'imposer, bah non, tu te les fais pas défriser, t'assumes des cheveux, machin.
Ouais, ouais, ouais.
Et en fait, non, elle me laissait la liberté de faire ce que je veux avec mes cheveux.
Ouais.
Et c'est après coup, tu vois, où je me rends compte que, bah. Et en même temps, enfin, je pense que c'était le bon truc parce qu'il fallait que ça vienne de moi,
ouais.
Certainement. Mais bref, du coup, c'est un peu l'inverse, quoi.
Ouais, c'est marrant, c'est vraiment des parcours. Tes parents, ils sont de quelle origine ?
Alors, mon père, du coup, il est guadeloupéen.
D'accord.
Et ma mère, elle est ch'ti. Enfin, elle est...
Oui, c'est
voilà,
ça. Du Nord.
C'est ça.
Et t'as grandi, tes deux parents étaient en couple
Ouais, 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 ouais. On a grandi... je suis née à Saint-Germain-en-Laye, donc
mm-hmm,
région
mm-hmm.
parisienne. Et après, on a déménagé en Normandie quand j'étais toute petite. Ouais, j'avais 3-4 ans.
D'accord.
Et après, on a redéménagé à Tours.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Et après, mes parents se sont séparés et moi, je suis venue faire mes études à Lyon et puis après à Paris.
D'accord. Et tu retournes souvent en Guadeloupe? Tu connais la famille de ton père là-bas?
Il y a... J'ai ma grand-mère qui vit là-bas.
D'accord.
Mon grand-père, je n'ai pas connu.
Ok.
Et en fait, la première fois que mes parents nous ont amenés en Guadeloupe, c'était quand j'avais 6 ans.
Ouais.
Et on essayait d'y aller, du coup, à peu près tous les 2 ans, quoi.
D'accord. Ah oui, donc tu connais bien quand même.
Ouais. Mais c'était à coup de 15 jours, tu vois. Ouais. Donc, au final, c'était... Enfin, moi, je me souviens, la première fois que je suis allée en Guadeloupe, c'était vraiment l'émerveillement total.
Ouais, c'est trop beau.
La première fois que je prenais l'avion, puis voir les plages, l'eau transparente et tout. Je me souviens, on était comme des fous avec mes frères.
Ouais, c'est trop beau. Je suis allée juste une fois, je suis passée 2 fois par la Guadeloupe quand je suis partie. J'ai travaillé, j'ai eu des tournages en Haïti.
Ah ouais?
Et c'est un délire, hein. L'homophobie dans les Antilles, c'est un petit Caraïbes, c'est un...
Bah, je connais pas trop...
Charles Soignon, elle en parle très très bien.
Oui, dans son Netflix.
Ouais, dans son spectacle, moi, que j'avais vu à la Nouvelle Scène, où elle vient jouer à Port-au-Prince, ou je sais plus.
Et elle, c'est horrible, enfin, c'est triste.
Elle se fait... Ou alors, à moins que ce soit le festival à Port-au-Prince, elle se fait huer, les gens partent, et c'est trop drôle parce qu'elle raconte ça en disant, et elle s'est mise à les insulter, quoi.
Ouais.
Elle était là, mais en mode pays du tiers-monde de mes deux, c'est parce que vous êtes pauvres que vous avez à croire en Jésus, espèce d'homophobe de merde. Et c'est génial parce que par contre, et c'est là où la question de, en effet, là oui, ça tu peux le dire que si t'es noir, je sais pas comment dire. Si t'es.
Ouais.
Je sais pas comment.
Je trouve ça cool qu'elle se soit autorisée à le faire et après à raconter sur scène. Après, même.
Moi, ce que je trouve génial, c'est
un truc d'une violence extrême. Quoi.
Mais j'aime bien que dans son spectacle, elle le raconte tellement drôle et tellement intelligemment que tout d'un coup, dans son échelle de valeur, elle n'ait eu aucun genre misérabilisme et qu'elle se soit dit c'est un pays pauvre qui croit en Jésus. Haïti, c'est très très pauvre. Vous êtes homophobe, donc allez niquer vos mères.
Ce que je trouve intéressant qu'elle précise justement, c'est le fait que. Je sais pas pour Haïti, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que, en gros. C'est via la religion, le gros blocage c'est la religion, et que la religion est un héritage plus ou moins colonial.
Absolument.
dans ces lieux-là, et ça justement elle le dit, et du coup ça c'est cool, parce que sinon je trouve ça aurait été un peu gratuit de dire vous êtes des cons.
Surtout qu'en plus, à mon avis, c'est vraiment un truc très... très chrétien, parce que la culture vaudou est totalement... assez ouverte, et très libérée. Il y a plein de... C'est hyper complexe, mais il y a plein de sujets sur la question du diable ou de l'inconscient ou de la liberté. Les prêtresses vaudous, c'est des femmes, déjà.
Donc
aussi, il y a plein de choses là-dessus qui sont pas... Non, c'est clair.
J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps sur... ça s'appelle Moonwalk. Et c'était sur, justement, les questions de genre et de sexualité en Guadeloupe, je crois, ou en Martinique.
Okay.
Et en gros, il disait que le seul moment où, en tout cas, tu peux avoir des fêtes un peu LGBT, tout, c'est pendant le carnaval, parce qu'il y a tout ce truc de déguisement, de fêtes, et tout le monde, c'est un moment de célébration où, du coup, on ne voit pas les trucs qui fâchent, quoi, en gros.
Ok.
Mais qu'en dehors de ça, c'est assez compliqué. C'est très, pour l'instant, entre guillemets, secret, quoi. Les soirées gays ou lesbiennes, je sais pas. Ils parlent plutôt des gays dans ce podcast. Mais après, le point de blocage principal, c'est vraiment la religion, quoi.
Et de manière générale, c'est vrai qu'on parle plus souvent des gays que des lesbiennes.
Ouais.
Le sujet, c'est vraiment encore quelque chose de récent, en fait. Parce qu'en effet, j'ai l'impression d'avoir eu beaucoup plus accès, que ce soit par des films ou en littérature,
c'est ce que j'allais dire, les films,
à des paroles ou à des auteurs, ou tu vois au théâtre
des grands films, genre Harvey Milk,
même plus récemment, peut-être 120 battements, ou même les pièces de Jean-Luc Lagarce ou de Coltès ou de Malou. Il y a beaucoup beaucoup d'artistes homosexuels, et Moonlight. Enfin, plein de... j'ai l'impression que d'avoir réussi à... Alors que sur des films qui parlent de... entre femmes de la de ouais il y en a beaucoup beaucoup moins. Après ça vient au fait qu'il y a moins de films de femmes, il y a moins de,
je pense qu'il y en a moins, et aussi il y en a mais ils sont méconnus, je pense.
Ouais,
enfin je sais plus.
Il y a Carole, oui, mais ouais, c'est fait Carole. C'est fait par un homme, mais Todd Haynes, mais
oui,
mais
oui, c'est
beau,
c'est vrai, ouais.
Mais ouais, ouais, il ouais, y a, bon bah il y a le film de Siama, les films de Siama, ouais, quand même qui font, heureusement qu'elle est là. Céline, heureusement que t'es là pour faire avancer les choses dans le bon sens quand même, hein, parce que
non, c'était... Après il y avait aussi La belle saison là de Catherine
Corsini, c'est vrai. Après, ouais, mais tu vois, c'est
film
hyper...
Film lesbien français.
Film lesbien français. T'as la fameuse série, comment dire, américaine.
Oui, The L World.
The L World, révolutionnaire. Mais,
bah, pour l'époque, ouais, c'est clair.
Pour l'époque, totalement. Ouais. Ensuite, c'est marrant parce que même dans les... Par exemple, sans que ce soit le sujet, t'as beaucoup de séries ou de films où t'as des personnages secondaires qui sont gays, des hommes. T'as beaucoup... Ouais, le meilleur ami gay, c'est limite un cliché. Mm-hmm. Alors que t'as très rarement...
Ou alors c'est un épisode, c'est un peu le cliché.
Ouais,
de,
c'est un épisode.
Il y a une lesbienne et puis après, ouais, quand voilà, même, elle finit avec un mec.
Ouais, c'est ça.
Ou
ah,
elle,
oui,
se suicide.
Oui, ou alors c'est ça. Ou alors c'est la vision méga hétérogenrée et fantasmagorique masculine, oui, après, du ça, lesbianisme. Oui. C'est-à-dire, voilà, à la vie d'Adèle de Kechiche, où on peut se demander c'est d'où vient ce gaze, est-ce qu'il n'est pas un peu malaisant. Est-ce que c'est. Voilà, il y a plein de, ouais, de femmes qui ont dit que c'était. Enfin,
moi, c'est marrant parce que... Mais c'est toujours le truc et le débat, c'est que moi, c'est un des... Ce film est vraiment sorti au moment, je crois, où j'étais dans ma phase de questionnement la plus intense et tout. Et ce film m'a... Pas m'a sauvée, mais m'a... Quand je l'ai vu, c'est là où j'ai compris que j'étais lesbienne, quoi, en gros.
Enfin, d'accord.
Parmi d'autres événements, mais... Mais ça m'a vraiment marqué. D'ailleurs, c'est très drôle parce que je suis allée le voir avec un mec avec qui je datais un peu.
Ouais.
Et ouais, il voulait. Enfin, on s'était dit qu'on se ferait une soirée cinéma et je lui ai proposé ce film. Et je me souviens qu'à la fin du film, j'étais vraiment genre. J'étais absente, quoi, parce que ça, ce film m'avait fait un truc. Et dans le métro, il était là, genre, ça va, tu veux rentrer chez toi et
Il avait peut-être il avait peut-être.
Bah, je pense qu'il avait peut-être senti que ouais, ça avait fait un truc, quoi.
Mmh. Et comme après, quoi, il était pas si à côté de la seule plaque que ça, Kechiche.
Ouais, non, je pense. Bah, ce qui est vraiment
ce qu'on peut
dingue, c'est les scènes de sexe,
les
quoi.
Scènes de sexe.
Après, moi, il y a des moments qui m'ont très touchée, notamment, je pense. Ouais. La scène où elle est avec ce mec et il a l'air super sympa et tout, et ils sont sur le banc dans la cour et elle pleure parce que ça va pas, ça marche pas, et que lui il est super triste. Et moi c'est vraiment des trucs, je pense, que j'ai que j'ai senti, quoi, où tu te dis bah non, ça ça va pas, mais du coup j'ai peur moi-même de me dire lesbienne, enfin. Et ça m'avait vraiment touché. Donc il y a des trucs, ouais, je pense, où il touche juste. Après, c'est la manière de filmer. Ouais, et ces scènes de sexe qui sont un peu...
Ouais, est-ce qu'elles sont si...
Comment c'est la manière de les filmer, quoi.
C'est la manière de les filmer, c'est la longueur. C'est peut-être que ça dure 20 minutes, c'est peut-être... Mais bon, en même temps... C'est-à-dire que... Il y a un côté peut-être un peu condescendant et paternaliste chez les hommes à vouloir que toutes les femmes soient lesbiennes parce que ça les fait bander de femmes ensemble. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de gars qui m'ont dit « Tu serais d'accord pour qu'on fasse un plan à trois avec une copine à toi ?» Mais un peu, au final, comme si ils annulaient la question de... En fait, vous êtes conscient qu'on a des attirances. Enfin, tu sais, comme si, en fait, on savait pas et qu'il fallait qu'il... Mais que c'est pas rien de faire l'amour avec une femme.
Ouais, c'est clair, ouais.
Et qu'en tout cas...
Une copine à toi, quoi.
Une copine à toi. Genre, trop bizarre. Et t'as envie de dire, bah, je le ferais...
Limite, avec quelqu'un que tu connais pas. Ouais, voilà,
ouais, une inconnue. Mais je me demande la part de femmes qui le... Parce que je pense qu'en fait, qu'en effet, je connais un couple qui fait des plans... Je me demande la part de... Est-ce que ce couple, elle est bi et résultat, c'est leur accord? Comment ça se fait que ce soit si trouble? Ou alors, peut-être qu'en effet, t'as beaucoup plus de bisexualité chez les femmes qu'il y en a chez les mecs?
Je sais pas si on peut dire ça, mais après, je pense qu'il y a plus... Peut-être que les femmes osent plus explorer que les hommes, parce que... parce que l'homophobie c'est un truc de ouf pour les mecs quoi, tu vois, genre, oui. Encore pire que sous une autre forme quoi. Mais je pense que déjà moi quand je parle avec des potes hétéros et qu'on parle de plaisir anal ou quoi, il y a un blocage qui me, enfin c'est ouf quoi, enfin tous les livres disent que apparemment vous prenez du plaisir bien aussi par cet endroit là donc pourquoi vous n'essayez pas,
c'est clair,
il y a un truc de genre non.
Ouais, il y a une remise en question d'un quelque chose qui leur fait trop peur, alors que ouais c'est vrai qu'on est tous donc apparemment dans le spectre de donc et que à un certain niveau. Est-ce que toi, ça a été un deuil à faire, le fait que tu... Parce que tu vois, le podcast s'appelle « Les mecs que je veux ken ». Est-ce que, tu vois, tu te dis que, justement, dans ton spectacle, tu racontes que c'était plutôt genre une espèce de délivrance et de soulagement, le moment où t'as vraiment compris que, en fait, t'avais pas à t'imposer ça dans ta vie. Ou est-ce que parfois, tu regrettes, tu te dis genre « Ah, genre là, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien, genre... » avoir un petit copain, ou en fait, non, c'est parce que... Parce que moi, parfois, je me dis, genre... Je fantasme beaucoup sur est-ce que je serais plus heureuse avec des femmes. Vraiment, c'est une vraie question que je me pose, tu vois.
En fait, je pense qu'il y a deux trucs. Je pense pas que... En fait, je me suis jamais dit, c'est sûr, plus jamais un mec, quoi. On sait rien, ça se trouve, dans 20 ans, je vais rencontrer un mec que je trouverai hyper cool, et ça le fera, et donc... Mais... Non, du coup, j'ai pas l'impression d'avoir fait un deuil, c'est plus un truc de libération où je suis là, genre, en fait, les filles me plaisent, donc vas-y, quoi. Et je suis dans un mood où j'en rencontre, que je trouve hyper attirante, sympa et tout, donc bah vas-y, quoi. Enfin, arrête de traîner, parce que c'est obvious. Enfin, je pense que j'ai mis plus de temps, finalement, à faire mon coming out à moi-même que envers mes proches et tout, quoi.
D'accord. Parce que t'as écouté l'épisode de Virginie Despentes dans Les couilles sur la table.
Ouais.
Elle dit que c'était un choix. Enfin, qu'elle a choisi. Alors,
Après, je comprends ce qu'elle veut dire dans le sens où... J'ai l'impression qu'à partir du moment où on te dit « Bon, bah, ok, ça y est, j'ai décidé que j'aimais les femmes et que je me disais lesbienne, bah... » Ouais, enfin, aux yeux de la société, je trouve que tu franchis un... Tu franchis un pas, quoi. Tu sais que potentiellement, ça y est, quoi. Tu fermes la porte à un espèce de schéma qui est validé par tout le monde. Et du coup, ça peut être difficile de se dire, bah, je quitte ça, quoi. Parce que c'est un peu quitter un truc confortable et facile. Parce que après, tu te rends compte que tu vas passer ton temps à faire des coming out et que ça va te suivre toute ta vie. Et c'est marrant, enfin, après t'oublies, enfin, mais tu t'en rappelles quand, par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis allée manger avec un pote au resto, on s'est fait un petit dîner ensemble, tu vois, et les gens ont cru qu'on était ensemble. Et j'ai vraiment senti le patron du resto
l'approbation.
Qui vient nous dire, qui vient nous dire alors, qui nous félicite même plus
les
ou moins
amoureux.
Mon pote en disant c'est vous qui payez, machin, elle est super. Et en fait, ça, tu te rends compte que tu l'as jamais avec ta meuf, quoi. Enfin, ou alors, c'est toujours un peu bizarre des. Ouais, je sais pas. Ou des gens qui sont là, genre, ah, vous êtes vraiment très bête. Et du coup, même moi, je le vois.
Et ça, je vois tout à fait ce que tu dis, puisque j'ai l'impression de le vivre déjà en tant que comédienne ou humoriste.
Ouais.
C'est-à-dire que de tous les cas, on est de toute façon un peu en dehors de la société, un peu marginaux, même si on est en France, qu'on a un statut, etc., qu'il y a des théâtres, des institutions, certes, mais...
tu vas pas dans la voie facile.
Non,
ou voilà,
non, et même tu l'as parfois à des dîners, tu sais, les questions de gens donc, qui te posent des questions. Mais donc tu mens aussi dans la vie. Ce truc un peu de fascination pour... et donc toi, tu dois avoir ton lot de questions chiantes qu'on doit te poser. Que là, peut-être ça, je trouve, je vais te poser aujourd'hui. mais que je trouve, qu'on... Et que parfois, c'est un poids quand même. Que parfois, moi, le nombre de fois où je mens, je dis pas, genre, c'est dans un Uber, s'il me demande, vous faites quoi comme métier?
Ah oui, d'accord.
Vois, je dis pas humoriste, quoi.
Ouais, parce que tout de suite, tu vas dire un film.
Ah, tu vois, c'est trop chiant, quoi. Donc, et tu portes, en fait, un peu le poids de l'exotisme de ce que les gens projettent. Genre en mode,
ouais,
ouh,
ouh. Ouais, clair.
Tu vois.
Mais d'ailleurs, ouais. je me suis pris la tête avec une de mes meilleures amies un coup à ce sujet. Où c'était, on était à une soirée, on avait bu machin et... elle est hétéro et elle a commencé à, je sais plus, à embrasser des filles ou à, genre, à vouloir danser avec moi, machin. Et en fait, ça a atteint un truc où je lui ai dit, en fait, parce que j'avais l'impression que c'était un peu pour rire ou je sais pas quoi. Et après, peut-être que moi, j'ai réagi parce que ça a touché un truc chez moi. Mais j'étais genre, en fait,
attention.
Moi, c'est pas une blague, quoi. Ouais. C'est ma vie, quoi, potentiellement risquer de me faire taper en boîte ou machin. Donc, et du coup, ouais, il y a un peu ce truc-là où, genre, quand on...
Complètement, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et je trouve ça toujours un peu pervers de la part des nanas hétéros qui vont aller, genre, s'essayer à embrasser des nanas sans prendre le... Enfin, sans se poser la question du risque de, mais si t'en embrasses une femme qui aime les femmes, en fait, dans quelle mesure tu joues avec elle ?
Oui, ça aussi, ouais.
Tu vois ? C'est hyper pervers de... Et puis, et j'ai l'impression qu'il y a plein d'histoires, parce que ça, pour le coup, c'est... Alors, donc, c'est la série sur Netflix... avec May Martin, c'est une humoriste. Elle sort avec une nana.
Ah, mais je l'ai pas, j'ai pas vu jusqu'au bout.
Mais en gros, c'est ça.
Elle ressemble à Audrey Jésus.
Ouais, elle ressemble trop à Audrey Jésus. Elle ressemble tellement à Audrey Jésus, putain. Mais voilà, et sa copine, elle sort avec une hétéro en fait. Elle sort avec une nana et c'est sa première meuf. Et tu sens que, en gros, la nana dont elle tombe amoureuse, c'est pas une nana qui aime les femmes. C'est une, elle,
après, je suis pas en train de dire que les hétéros ne doivent pas embrasser les femmes, attention.
Non, mais
c'est juste, là, c'était la manière. J'avais l'impression que c'était plus de la performance que un truc vraiment sincère, tu vois.
Bah, après, j'ai des copains gays aussi qui me disent que c'est un peu leur drame de leur vie de tomber amoureux de. Enfin. D'hétéro. Mais bon, et c'est dans l'autre sens ainsi. T'as aussi tout ce fantasme de nana qui sort, putain. Enfin, qui tombe amoureuse de leur pote gay parce qu'il est plus sensible, plus intelligent, plus je sais pas quoi, tu vois. Il y a tout ce truc. Mais après, c'est vrai que pour revenir sur la question du féminisme, moi, c'est bizarre parce que, donc, avec mon éducation, avec ma mère, j'ai toujours eu l'impression d'être féministe et que c'était quelque chose de simple et cool et de facile. Mais. Récemment, je me suis vachement fait shamer, en fait, ces dernières années dans mon féminisme. Et
ouais, c'est un peu c'est les réseaux sociaux, quoi.
Ouais, mais c'est des gens en vrai, en face, qui... et aussi qui me le disent. Et résultat, je me suis dit, putain, c'est un truc genre qui m'était que j'avais pas vécu. Et en fait, en plus, moi, MeToo a changé tellement de choses dans ma vie. Vraiment, étant comédienne, j'ai réalisé que j'avais vécu... tellement de situations d'harcèlement, d'abus, et je voyais ça comme juste, ils sont lourds, en fait, alors que c'était... Mmh. Et je pense que c'est pas rien si je suis célibataire, dans le sens où je pense que vraiment, je veux pas être dominée par un homme, tu vois, je sais pas comment dire, genre, j'essaye de trouver un truc où genre, je suis en totale possession de... J'ai pas envie d'être dans un couple où il dit un peu une connerie, mais je ferme ma gueule parce que je veux pas le vexer. J'ai pas envie d'être dans un schéma de faire attention à soigner la virilité de mon copain. Je sais pas comment dire.
Oui, non, je vois ce que
j'ai envie qu'il ait fait ce travail-là pour lui, tu vois. et à côté de tout ça, en fait, ça s'est passé au tout début de l'année, mais c'est aussi par rapport à mon...
Ah, c'est l'anecdote ? Non, pas du tout.
Si, c'est l'anecdote. En fait, je pense que c'est lié aussi avec mon rapport au stand-up. Attends, je vais juste ouvrir la porte parce que mon chat, faut qu'il aille faire pipi, je crois. Et c'est marrant, je compare ça beaucoup, en fait, le féminisme au judaïsme, parce que... Okay.
Je connais pas du tout le judaïsme.
Mais c'est tout aussi vaste, et dans le sens où... Mais dans le judaïsme ashkénaze, t'as une grande tolérance à plein de pratiques différentes de ta spiritualité. Et notamment, moi, mes parents, ils ont été mariés dans une synagogue donc, libérale, réformiste, tu vois, où la Delphine, la rabbine Delphine Ortwiller, elle pratique aussi des mariages gays, donc ultra, ultra moderne. Mmh. Et avant eux, c'était le rabbin Fari qui les avait mariés en leur disant « je suis ravie de marier deux juifs qui ne croient pas en Dieu ». Donc moi, j'ai toujours genre, accepté cette espèce de fluidité du rapport à ma religion où on n'a pas spécialement d'attachement à Israël, on ne croit pas en Dieu... On fait un peu les fêtes, mais en fait, mine de rien, on a un rapport très fort à notre histoire et on a de la famille qui a été exterminée, etc. Donc ce truc-là. Et je pense que c'est un peu un... Et j'ai jamais été traitée de mauvaise juive par des Ashkenas. Ça a pu m'arriver peut-être par des Sefs qui étaient là, genre qui se choquaient, mais comment ça, tu manges du porc, ou comment ça, ou qui comprenaient pas, qui eux avaient un rapport plus, très tradit, très observant, alors qu'en fait, c'est connu chez les Ashkenas que c'est un truc très intime, en fait. Et que je pense que le féminisme aussi, en fait, son rapport à soi. Mais je crois qu'en ce moment, aujourd'hui, comme c'est l'un des phénomènes de société genre majeur, la question, tu peux plus, ça peut plus être intime, faut que tu le dises. Mais en gros, l'anecdote, c'est que il y a une réalisatrice qui m'a contactée en juillet dernier parce que elle réalise un documentaire sur les femmes humoristes et le féminisme. Et pas le sexisme.
Documentaire
pour une chaîne télé.
D'accord,
Pour une chaîne télé sur la place du féminisme dans le stand-up, etc. Tout ça, machin. D'ailleurs, je lui avais donné ton contact.
Mais qui est sorti ?
Non, qui est en train de se réaliser.
Ah, d'accord, ok.
Et donc, j'avais pris un café avec elle en juillet dernier. Et on avait discuté, elle m'avait demandé, alors, est-ce que t'es féministe ? Je lui avais dit, oui, je suis féministe. Après, je ne suis pas sûre du tout que mon spectacle soit. Je ne sais pas. En fait, moi, j'ai essayé de faire quelque chose de personnel. Et, désolée, ça pue un peu la pisse de mon chat. Je suis désolée. Putain, je vais juste mettre un petit peu de désodorisant. Je suis désolée.
Ah, putain, mais nous...
Aïe.
Mais ça m'était arrivé quand même que après avoir vu des passages plateaux ou machin, enfin il y a des femmes qui me remercient ou qui me disent ouais girl power, ouais t'as raison, ou t'es trop bien que tu, ou genre oh t'oses, ou même des femmes qui tu vois qui me disent mais merci de parler genre de la masturbation féminine ou des trucs comme ça. Donc en fait je me disais que bah si en fait je faisais le travail et bref cette femme est venue voir mon spectacle et elle m'a attendue à la fin. Alors c'était un soir.
C'était quand ça du coup ?
C'était à la rentrée au point virgule. C'était pas la première, c'était genre peut-être la quatrième, etc. Et à la fin, elle m'a dit ton spectacle n'est pas féministe.
Ok. Et c'est quoi les réponses du coup ?
Et donc en fait, moi je. C'était très genre décisif de sa part.
Déjà, les retours à chaud comme ça après le spectacle, c'est...
Ouais, mais après, c'était... Sauf que, résultat, je me suis dit... Elle m'a dit, ouais, non, ton spectacle n'est pas féministe, c'est pas... Parce que... Alors, l'un de ses premiers arguments, et c'est un truc que j'ai déjà entendu, c'est parce que tu parles de tes complexes et tu parles, machin, de ton... Entre guillemets, de, voilà, d'être complexé par ses tétons ou c'est, etc., machin. Elle me dit, c'est plus l'heure d'être complexé maintenant. C'est l'heure de revendiquer, etc., machin. Ensuite, il a tellement besoin d'amour. Je peux lui dire de partir, hein, parce que là, il va vouloir s'asseoir, en fait.
Ouais, je veux bien, ça dort.
mais nous, laisse Tani tranquille. Laisse, putain, il veut tellement se poser.
Il cherche la bonne disposition.
Non, mais non.
Bon, écoute, ça, alors,
Te regarde, viens là. On va lui faire un petit pont. Hein.
Oh merde, le pont.
Il est trop deg. Surtout que ta fille s'était mise genre dans sa position, il voulait plus bouger quoi. Ah, il est trop dégoûté. Mais non, il y avait ça, ce truc apparemment. Et puis, est-ce qu'il avait que ça apparemment, c'est une blague peut-être que j'ai faite et qui était après avoir vu la série avec Mae Martin où je les voyais entre femmes utiliser un god et je disais dans mon spectacle clairement j'ai une nouvelle blague. Où je dis que si je deviens que le jour où je décide enfin de devenir lesbienne, eh ben je veux rien voir vivant en plastique qui ressemble à une bite quoi voilà et donc
tu veux pas quoi ?
Je veux rien voir vivant en plastique qui ressemble de près ou de loin à une bite et que je passe plus place de la Concorde, j'arrête le concombre, enfin voilà et que je me libère définitivement du phallique quoi.
D'accord.
Et je me disais enfin vraiment et que moi ça me paraissait bizarre entre femmes de faire intervenir une bite, surtout dans la société d'aujourd'hui, quoi.
Y a des lesbiennes qui sont contre ça.
Voilà, c'est ça. Et que je pense qu'il faut trouver un autre objet, une autre forme, un autre truc, enfin des trucs, mais de pas de. Et que. Après, je me suis renseignée sur le fait que bien sûr. Mais elle, ça, alors que c'était une réflexion. Et puis après.
Elle a parlé de ça ?
Ouais, elle m'a parlé de ça. Elle m'a dit un peu en me disant. tu comprends rien, t'as pas rien compris, machin, etc. Elle me dit oui, et puis on n'utilise pas tout le god, etc. Mais je lui dis, mais en fait, c'est même pas la question, c'est la représentation dans les films, etc. Ouais. Et l'idée, c'est de dire, enfin, puis tu vois, et puis j'ai pas du tout l'impression de faire une blague homophobe à ce moment-là, tu vois, au contraire, tu vois, c'est de dire, genre, mais est-ce qu'on a encore besoin à tout prix, tu vois, d'avoir ce symbole Mais donc, en fait, après, au final, je me dis qu'elle est un peu conne et qu'elle a pas d'humour, tu vois. Mais le fait qu'elle me shame sur mon féminisme, j'ai trouvé ça super violent.
Ouais.
Et qu'elle décide, bon, bah, de pas me programmer dans son truc, ok. Et genre, deux soirs avant, j'avais eu, genre, un retour d'un autre professionnel, au contraire d'un homme qui devait m'offrir une grosse opportunité et qui m'a dit, ouais, Rosa, elle fera pas ça parce qu'elle parle trop de cul dans son spectacle, etc. Et tout machin, on en a marre des femmes qui parlent de cul. Donc, c'était un peu, genre, à la fois de, genre, d'être vraiment, chaque semaine, hein, depuis le début du spectacle, victime de misogynie, tous les mercredis, de la part de professionnels. Et donc, là, le moment où j'aurais eu vraiment le plus besoin, en fait, de sororité et de, justement, de qu'on me laisse la place, qu'elle, elle me la ferme comme ça, ça m'a vraiment traumate, quoi. Ouais. Et heureusement, j'ai refait un plateau quelques temps après. Et il y a une nana qui m'a dit « C'est trop bien ton set de Cuny que tu parles, etc. » Et que tu me dis « Tu rentres dedans et tout, t'as pas peur. » Et me dit « T'as contacté des trucs féministes ?» Et je lui dis « Bah... »
Ah oui, tu m'en as parlé.
Tu vois, suite à elle, j'ai dit « Bah, ok. » Et résultat, j'ai la prédiction qui est venue voir mon spectacle et qui m'a... Elle m'a dit « Mais... » Non, enfin, ta quête du plaisir féminin, ton obsession sur la jouissance féminine et la façon de t'en parler, ça fait partie du discours féministe, évidemment, ouais, que t'as clair, ta place là-dedans. Et après, voilà. Et donc, je me dis, ah ouf, je suis en train de réconcilier ça, de me dire, j'ai le droit à ma place. Ouais. Mais c'est vrai que il y a les réseaux sociaux. Est-ce que tu vois ce que je veux dire?
En fait, je comprends le truc de, sans rapport avec toi, on est dans une période où et c'est encore pire, c'est encore pire pour le milieu queer LGBT.
Ouais.
C'est intransigeant, quoi. Enfin, j'ai l'impression que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et je trouve ça dommage parce qu'on a tous mis du temps à se déconstruire, potentiellement d'y penser des bêtises. Et du coup, j'ai l'impression que c'est hyper dur pour une meuf qui serait au début de sa construction féministe ou de sa construction de lesbienne ou etc etc. Et donc ouais, je trouve que c'est une période qui est pas facile et que quand tu rajoutes les réseaux sociaux les débats par message et tout, ça peut partir en live, quoi.
Ouais.
Alors qu'un dialogue en face à face, déjà, c'est mieux.
C'est clair. Mais il y a aussi ce truc du genre où... c'était une amie qu'on a en commun. Il y a plusieurs copines, il y a beaucoup de femmes, quand même, de copines humoristes, de femmes qui m'ont fait ce reproche de me dire « ton podcast est hétéro-genré ».
Bah, enfin, de fait, c'était dans le fait que tu t'invites que des mecs.
Ouais. On dit, en fait, tu proposes aucune autre option.
Après, en fait, le truc, c'est ton choix, enfin, c'est ta réalité aussi. Enfin, je veux dire, si
tu
es attiré par des mecs,
c'est ça, et
que ton podcast s'appelle Les mecs que je me canne, enfin, ça me choque pas. Après, c'est juste que, bah, potentiellement, tu vas plus avoir des hétéros qui vont t'écouter.
Ouais.
Et se reconnaître peut-être dans ce que tu dis ou.
Ouais.
Mais.
Oui, après, c'est ça.
J'ai pas écouté tous les épisodes. Mais
en fait, c'est ça. Mais c'est que pour moi, certainement, mais c'est par respect, en fait, justement, par sincérité, même intellectuelle.
Ouais, ouais. Après, ça dépend. Enfin, ou alors, c'est si vraiment dedans, tu parlais que de relations hétéro ou machin, mais.
Non, c'est ouvert à. Mais et ensuite de ça, j'ai eu le reproche de tu donnes la parole à des hommes. On donne déjà trop suffisamment aujourd'hui la parole à des hommes. Et que je comprends en fait. Moi, je vois ce que veut dire Alice Coffin et j'essaye moi aussi de concrètement la musique. J'avoue, je tripe pas trop, mais tout ce qui est livre, enfin.
Ouais.
Et même film et quand même série et personnages, je suis toujours plus en quête d'autrice. Et c'est vrai que, en fait, mais c'est pas tellement un choix qu'une vraie préférence aujourd'hui. Je sais plus si ça m'intéresse de voir des héros hommes. Enfin, vraiment, la plupart des séries que je choisis, c'est des héroïnes, c'est vrai. Et je sais pas, je trouve les histoires. J'ai l'impression que C'est quoi le dernier héros qui m'a...
Ouais, ça dit... Ouais, après...
Ouais. En tout cas, c'est clair que...
Oui, je... mais pour moi, je pense que c'est inconscient, tu vois. Ou, par exemple, si c'est une série, ouais, avec un héros... mec qui est, bah, si qui c'est... est trop comme ouais. d'habitude, ça va me gonfler.
Moi non plus, mais ça j'ai toujours, même déjà en fait avant, si je voyais des affiches où il y avait que des gars, déjà de toute façon ça me saoulait
ouais,
un peu.
Moi aussi ça me fatiguait. D'ailleurs je me suis tu sais, des fois tu vois des trucs sur Facebook, ça t'énerve et tu fais l'erreur de commenter avec des inconnus. Je sais plus quand ça m'était arrivé, mais oui, je comprends ce que tu veux dire, des fois juste t'es un peu saoulé, quoi.
Ouais.
Mais là, dans la mesure, en fait, dans la mesure où ton podcast s'appelle Les mecs que je veux ken, bah, ce serait difficile de faire autrement, tu vois.
Et puis en plus, en
mais
fait.
Après, je peux comprendre l'argument.
Ouais, 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 je le comprends aussi. Et finalement, tu vois, je suis ravie de, tu vois, d'y répondre en toute sincérité comme je peux en faisant genre quelques épisodes Les meufs que je veux ken, parce que résultat, ça me permet d'interroger justement la parole. Et de voir, tu vois, d'aller vraiment étudier. Et j'ai pas de. Genre, les femmes, j'ai envie que ça soit mes copines, quoi. Genre... tu sais, je sais pas, il y a un truc qui est moins conflictuel, qui est moins. Ouais, qui est plus simple, en fait. C'est qui est plus simple. En fait, les mecs, c'est plus un combat. Donc, comme moi, je voulais aller à travers ce podcast, aller essayer de voir les racines du combat et de. Hein, pour moi, les femmes, c'est
Okay, tu vois,
c'est plus une évidence, en fait. Genre, j'ai pas de. C'est comme si j'avais pas de problème à résoudre avec les femmes.
Okay,
et à la fin de la saison 1 de mon podcast, j'ai invité mon père, parce que oui, avec mon père, il y a toujours un truc de rivalité, de machin, de. Ah, alors qu'avec ma mère, c'est simple.
En fait, je sais pas.
Et donc. Alors, et franchement, genre, si j'avais...
Mais est-ce que eux, ça leur apporte des trucs ?
Professionnellement, tu veux dire ?
Non, non, mais je veux dire, je sais pas, les réflexions que vous avez pu avoir dans ton podcast...
Écoute, j'ai eu des retours comme quoi certains n'en sortaient pas indemnes. Et je crois que... Ouais, ouais. Je crois que... Non, non, en fait, le fait de les inviter, de leur lire un poème, ou parfois je leur détaille, alors voilà pourquoi je voudrais être Ken, etc. Voilà la première fois que je t'ai remarqué. Voilà pourquoi... Tu vois, Redouane Arjan, le dernier invité, j'ai dit, bah alors, enfin, il y a 2-3 ans, je pense qu'on aurait Ken direct, maintenant, aujourd'hui, machin, etc. Et donc, ils sont pas du tout habitués à cette parole-là, surtout que j'ai choisi la plupart du temps des humoristes, tu vois. Ils sont pas non plus les gars les plus woke, hein, tu vois. Et je crois qu'en fait, ça les surprend. Certains, ils mettent des limites, mais qu'en fait, c'est assez nécessaire. Et ouais, et j'ai pas mal de meufs qui m'écrivent pour me dire « Ah, mais machin, t'oses lui dire, etc. Moi, j'aimerais pas, mais j'ai l'impression de trucs. » Et en effet, les messages de nana sont quand même assez cool. Et parfois, les messages de mecs sont cool aussi, mais... Non, là, j'ai reçu un message d'un mec de Chine incroyable, genre trop sympa. Mais parfois, j'ai des messages un peu maladroits, un peu mansplainants, un peu genre, t'en fais pas, un jour, tu trouveras. Et genre, mais c'est pas le. Genre, je suis pas Bridget Jones, en fait. Et les mecs veulent toujours un tout petit peu m'expliquer un truc ou me mettre la main sur l'épaule. Alors que les nanas, quand elles m'écrivent, sont dans un truc beaucoup plus sincère et de l'aveu, de la confession, de je traverse quelque chose qui est difficile, merci. Je sais pas, c'est jamais un truc où inconsciemment ils se mettent au-dessus. Et c'est ce qui fait que le rapport aux hommes est toujours tendu, c'est que t'as toujours envie d'enlever cette main virtuelle de tes épaules et tu te dis lâche-moi.
Ouais, c'est clair.
Mais peut-être
que. Je comprends ce que tu veux dire dans le truc de. Bah, j'avais envie du coup d'explorer là où ça potentiellement ça coince ou
voilà ouais
et c'est vrai qu'on n'a pas toujours la patience le courage.
Oui, et parfois il y a eu des épisodes difficiles que j'ai coupé, tu vois. Il y a un épisode où après je fais un peu de montage derrière où l'un des invités, c'était au tout début de la saison 1, me coupait tout le temps la parole, me laissait pas parler, il me disait je t'explique, il me disait je l'ai coupé le moment où il dit non mais toi faut juste que tu te maries. J'étais genre, ok. Waouh, est-ce qu'on en vraiment. Et c'était fatigant, quoi. Mais je me disais, bon, et ben c'est aussi. Voilà, la façon de me forcer à ne pas faire de l'entre-soi. Parce que mes amis sont déjà d'accord avec moi.
Ça dépend ce que tu cherches, en fait. Tu vois, je ne suis pas forcément critique de l'entre-soi, parce que des fois, c'est nécessaire.
L'entre-soi, c'est hyper important. pour créer des systèmes de solidarité et se rencontrer.
Et même, entre guillemets, s'élever et progresser ensemble, tu vois.
Complètement. Mais je pense qu'à travers ça, je voulais aussi rencontrer le milieu du stand-up. Et je pense que... je crois que c'était parce que c'était aussi des humoristes que j'admirais. Et je me disais, OK, l'admiration fait que, genre, je peux être attirée par toi. Moi qui viens du théâtre subventionné, où j'avais beaucoup, beaucoup d'amis gays, les femmes, la plupart de mes potes, ultra libérées, comment ça se fait que j'intègre tout d'un coup ce milieu de l'humour où t'as des meufs pures et des salopes, tu vois? Et je me dis, et en même temps, c'est quelqu'un que je vois sur scène, et tout d'un coup, comment ça se fait que sa blague, elle soit bien écrite, elle soit efficace, et je me disais, genre, OK... Faut que j'aille sonder ce nouveau milieu, ce mystère.
Ouais, d'accord, oui, je comprends.
Tu vois, où, pour moi, l'un des meilleurs épisodes, c'est celui avec Nordine Ganso, tu vois. Lui, il a été très troublé.
Troublé par quoi?
Parce que
tu as posé des questions.
Ouais, parce que je lui ai dit, t'es vierge, mais si tu te masturbes, en fait, je comprends pas. Tu vois, par rapport à l'islam, le deal.
Ah, ok, d'accord.
Et donc, il a essayé grâce et sincérité, de m'expliquer son rapport aux femmes et à sa religion, et un truc très et comment lui il essaye de faire des blagues avec.
Ouais.
Et c'est une discussion que, enfin, je suis très heureuse d'avoir eue, que je pense hyper importante, mais que j'aurais.
Ouais, t'aurais jamais eu. Ouais, comme j'aurais ça, jamais après eu. Une scène.
Non, parce
et
qu'en
fait,
tu vois, les potes que j'avais, mon pote, tu vois, déjà, je connaissais peu de musulmans avant de faire du stand-up, musulmans pratiquants très peu, tu vois, vraiment, en fait, ils n'étaient pas dans mon entourage. Donc, en fait, c'est des nouvelles discussions, c'est-à-dire que c'est important pour moi d'avoir des safe places et puis aussi des unsafe places.
Ouais, je comprends.
Tu vois?
Ouais, carrément. Pour comprendre, en fait.
Pour comprendre et pour essayer de les rallier à la cause.
Ouais. Tu vois? Ok, je vois.
C'est... Alors, parfois, c'est impossible. Et moi, parfois, j'ai passé beaucoup de temps à essayer de discuter avec des camarades humoristes. Et tu sens que c'est peine perdue parce qu'en fait, ils sont... C'est fini, quoi. Enfin, tu sens que tu les rattraperas pas, quoi. Ils sont tellement...
Dans leur truc ou...
Ah ouais, et puis tu te dis, bon, bah non, tant pis.
Oui, c'est clair. Oui.
Mais moi, si je suis changeable, je me dis l'autre est forcément changeable aussi.
Ouais, non, mais je... C'est courageux.
Toi, comment ça se passe, l'expérience? Parce que t'as créé le plateau du Comedy Love, qui est une putain de réussite, ou...
Ouais, bah du coup, j'avoue que je comprends ton truc.
Mais vous invitez aussi des personnes, vous avez invité Roman Frissinet. Enfin, je veux dire, vous aussi prenez le risque parfois de...
Ouais. En vrai, le Comedy Love, c'était plus création d'une safe place, hein, clairement. Ouais. Et c'était aussi pour pouvoir, nous, se faire jouer plus, etc.
Mais ça, moi, je l'ai avec le Comedian Chill.
Ouais,
le Comedian
c'est ça,
Chill,
ouais.
Où j'ai souvent été invitée, où j'ai beaucoup joué. Je sais même pas si aujourd'hui je ferais encore du stand-up s'il n'y avait pas eu ce plateau.
Ouais, ok, d'accord.
Justement, ce safe place où de Johanna et Safe, où
ils sont géniaux.
Ils
quoi.
Sont tellement géniaux, ouais. Ils sont tellement purement eux, vraiment accueillants et tolérants, ouais, et sensibles, et c'est leur vraie nature. C'est pas politique,
pas du fake.
Pas du fake, et on en voit aussi un peu parfois du fake ou des effets de mode. Eux, c'est leur nature, et c'est vrai que ça m'a et créé un tel espace de tolérance que j'ai souvent pu même créer inventer des nouveaux passages que devant des publics autre, j'aurais jamais osé tester. Un peu comme ce que fait Yacine Bellou sa première fois aussi.
Ouais, c'est clair.
Et qui sont trop rares, mais c'est vrai que c'est des...
Mais ouais, du coup, je crois que, surtout en ce moment, je suis vraiment plus dans des trucs de safe place, plutôt que de partir à l'aventure pour essayer de convaincre des gens, parce que je...
C'est très destructeur.
Les quelques fois où j'ai essayé de le faire, j'y ai perdu beaucoup de plumes. Ouais. Quoi. Genre, j'ai une fois, en tout cas, essayé de faire comprendre à quelqu'un, justement, du milieu du stand-up, que... Ouais. Que après, bon, ça, c'est un truc que j'ai essayé d'arrêter de faire, parce que qui est dans tout le débat dans ce moment, de quand je vois quelqu'un faire des blagues que moi qui me font pas rire, aller lui dire non, ça j'ai arrêté en fait. Écoute, il y a des types d'humour qui te font rire et d'autres pas.
Okay.
Mais là, c'était quelqu'un qui avait fait une blague, un set que j'avais trouvé très homophobe, voire raciste. Et en fait, je lui ai juste dit que moi, le fait de passer juste après lui, c'était une violence extrême, tu vois. Surtout que j'arrivais et je disais, je suis lesbienne.
Ouais, bien sûr.
Et en fait, j'ai juste voulu lui dire ça.
Ouais.
Et tout m'est revenu contre moi en mode, t'es trop sensible, tu comprends rien, machin.
Il a pas
t'es abusé de faire ça, pour qui tu me prends, t'es en train de me dire que je suis homophobe et tout. Enfin, j'essayais juste d'avoir un dialogue avec toi en fait, par rapport à ce qui s'est passé et moi, comment je l'ai ressenti.
Surtout que franchement, donc, Tani, t'es la nana la plus solaire et bienveillante. Ouais, c'était très dur. Moi, une fois, je me suis permise d'aller voir un humoriste qui avait fait une blague sur les juifs. Parce que j'en ai entendu dans des blagues sur les juifs où je l'ai genre. Bon, ok. C'est, en fait, c'est pas une question que ce soit antisémite ou quoi. C'est une, un cliché qui fait pas forcément. C'est-à-dire que si c'est un cliché d'un gars qui a beaucoup de popularité et que c'est encore un cliché qui dit que en fait les juifs sont riches, ça attise un vrai sentiment de de jalousie.
C'est ça.
Et c'est faux. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est un fantasme. Et donc là, il y avait un humoriste qui faisait une blague. Et c'est un humoriste que je trouve fort, qui est plutôt débutant et qui est assez fin et qui renvoie un truc assez doux et intelligent. Et il faisait un truc encore sur la banque ou je sais pas quoi, des juifs et tout. Et j'ai senti que les rires qu'il avait étaient un peu chelous. Et je me suis dit, en fait, il... Et je suis allée le voir. Et je lui dis, franchement, ta blague, elle est cool. Mais il faudrait que tu rajoutes un tout petit truc derrière. Pour qu'ensuite, on voit que tu pousses le curseur plus loin. C'est ce que fait incroyablement Haroun quand il parle des juifs et des et les musulmans et des femmes. Voilà, où, tout d'un coup, en fait... À force de dégoupiller, de retourner, bah, c'est magnifique et tu comprends que bah, voilà que c'est qu'il est dans et je lui dis en fait ta blague elle est marrante, il faut juste que tu rajoutes un truc après pour que tu que le public, parce que sinon si ça s'arrête là on se dit bah c'est il a été cool, il a entendu et tout, mais les gens rient et j'ai mais enfin j'avais vraiment l'impression qu'il pouvait faire mieux, c'est le seul moment où je suis j'ai osé et ça s'est plutôt bien passé. Non mais c'est la seule fois, après il y a plein de fois et il y a plein de fois où j'ai pas confronté et pourtant pour moi en fait mais c'était même en effet
après en fait moi ce que je me dis c'est qu'aussi enfin surtout en ce moment où je pense que tout le monde se pose beaucoup de questions autour de l'humour machin, jusqu'où tu peux aller et tout. Et je pense qu'il y avait quand même un peu de vrai dans ce qu'il disait, dans le sens où maintenant j'accepte le fait que c'est clair qu'au vu de ma sensibilité et de mon histoire et machin, il y a des blagues qui vont faire rire quelqu'un et moi pas. Et c'est en fait, c'est juste OK de se dire ça, je pense.
Mais c'est généreux de ta part parce que ça se trouve il va améliorer sa blague. C'est aussi, c'est-à-dire que en fait, moi déjà, si tu prends le temps, la question n'est pas de pas parler. Il faut continuer à parler, mais parler peut-être différemment. C'est pas, on dit pas, tu n'as pas le droit de parler de ça ou ne parle plus de ça. Si tu parles ou si tu dis le mot, bah par contre là, faut que tu saches qu'il y a un petit terrain derrière quand même sur ce truc. Et moi parfois c'est pas le fait que des gens parlent ou pas de certains trucs, c'est la façon dont ils le font, comme
tu vois. T'as raison. Enfin, oui.
Et il y a un gars qui monte sur scène et qui disait l'athlétisme c'est un truc de PD, etc. Juste ça. Et en fait, t'es là genre, gars, tu peux pas.
En fait, ouais, mais ça dépend, tu vois, parce que la même phrase dit dans une autre bouche, enfin, typiquement un gay.
Ouais.
Là, enfin, en fait, tu vois, c'est pour ça que c'est hyper.
Alors, les gays, en effet, bah, t'as une licence peut-être à utiliser le mot PD que tu peux pas utiliser de la même façon chez les hétéros. Mais si un hétéro veut l'utiliser sur scène dans un sketch, qu'il le fasse. Enfin, moi, j'utilise le mot, mais longtemps. C'est-à-dire que moi, je le fais un moment dans mon spectacle, mais je prends du temps pour dire et non et essayer de contredire derrière ma vision de l'homosexualité, machin. Et à la fin, j'essaye de faire un truc où à la fin, on comprend bien mon intention, mais juste, ça peut pas être balancé. Si c'est balancé, tu dois derrière...
Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire.
Pour moi, c'est pas...
Faut que tu parles du truc, quoi.
Ouais, enfin, c'est trop... Et il y avait un autre humoriste qui venait du sud, je sais pas si elle avait fait un plateau avec lui, moi je faisais, j'ai halluciné quoi. Il venait, il mettait de la musique.
Façon, franchement, il y a des pépites.
Ah non, mais il y a des pépites, hein. Il venait, il dansait, et puis il disait, ça c'est pas une danse de PD, et c'était ça sa blague.
Ouais, enfin, bah, oui, ça m'étonne pas, quoi.
Et wow. Et tu ouais, dis, ouais, ah ouais.
C'est comme, je sais plus, enfin, Lucie aussi, elle nous avait raconté des trucs.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Des trucs, ouais, des trucs chauds, genre, je sais plus.
Mais si la bonne nouvelle, c'est que ça peut pas vraiment
marcher. Cartonner.
Non.
Ouais, moi c'est un moment donné aussi où je me suis... Ce qui m'a permis d'arrêter, en fait, de me battre potentiellement, c'est me dire qu'en fait, le public évolue aussi, et donc je pense pas qu'il y ait des salles, enfin, ça dépend où, mais hilares devant des blagues comme ça, tu
non,
vois, et que,
non, bien sûr que non.
Les artistes, quand même, aujourd'hui, de stand-up, enfin bon, après, peut-être que je suis pas tout le monde, mais pour moi, qui cartonne, c'est des Marina Rollman, c'est des Roman Frécinet, c'est des gens qui sont quand même beaucoup plus safe que,
bien sûr.
Que ce que tu peux voir dans les fins fonds des plateaux.
Après, t'as une différence entre Paris et la province. Est-ce que toi, tu t'es déjà confronté à des publics de province?
C'est dur.
C'est dur. C'est dur.
En fait, j'ai l'impression que quand j'y vais, je vais à la guerre, quoi. Tu vois, enfin, je fais très attention aux sets que je fais, l'ordre de mes blagues et tout, mais c'est un vrai truc, ouais. Genre, dernièrement, on a fait un plateau avec Mao à Igny.
Ok.
Donc, ça reste l'Île-de-France, mais c'est quand même, voilà, Essonne, petite commune...
Petite bourgeoisie.
Petite bourgeoisie, machin, et... Le public était hyper vieux. C'était vraiment...
Au moins, vous étiez deux.
Toutes les deux. Ouais. Heureusement qu'on était ensemble. Ouais. Mais il y avait un peu un truc de genre... Moi, j'étais... Enfin, vraiment, je me suis dit... Mais quel... Enfin, pourquoi tu fais ça, quoi? Genre, tu pourrais être chez toi,
c'est maso.
Le week-end.
Ouais.
C'est vraiment le masochisme du stand-up.
Ouais,
quoi.
C'est clair.
Et j'ai fait mon truc, mon set un peu habituel sur les cheveux, le racisme, et après... où là, ça a plutôt bien marché.
D'accord.
Mais parce que je l'ai brossé un peu dans le sens du poil. Oui. Et après, quand j'ai parlé vraiment du fait d'être lesbienne et tout, j'ai senti vraiment...
La scission.
Enfin, ouais, il y avait des gens qui me suivaient, il y en a qui... Je les ai perdus.
Ouais,
quoi. Et du coup, même comme moi, je suis quand même encore dans un truc de... de pas de séduction, mais je veux quand même que tout le monde se sente à l'aise, et du coup je pense que j'ai offert mes blagues d'une certaine façon, et du coup c'était marrant parce qu'il y avait le grand parrain de cette c'était un concours, c'était Pascal Légitimus.
Ok.
Et du coup à la fin il nous a fait un retour un peu à tout le monde, et moi, mais c'était vraiment très vrai en plus, il m'a dit bah c'est dommage parce qu'on a l'impression que tu t'es excusé pendant 10 minutes. Et c'était vrai, quoi, parce que je pense que j'avais tellement peur que je faisais une blague, je reculais, genre.
Intéressant.
Et ouais, du coup, je pense qu'il y a un peu ça. Je pense que quand je suis en province, j'ai un peu tendance à m'excuser d'être là d'avance. Parce que après, les moments où je suis contente quand même, c'est que quand t'as, par exemple, ne serait-ce que 4 ou 5 personnes dans la salle, par contre, qui t'ont aimé, bah là, je trouve ça fort parce que...
Ouais,
c'est aussi ouvrir la porte, aussi donner autre chose à voir, à... Moi, ce que j'essaie de faire maintenant quand je sors de Paris, c'est vraiment...
Adapter ton set?
Non, mais faire des trucs genre en partenariat avec une asso, m'assurer qu'en fait, il va y avoir un peu de public
LGBT,
potentiellement, voilà, va accrocher à ce que je dis, qui vient, quoi.
Ouais.
Sinon, c'est un peu de la torture, quoi.
Ouais, c'est un peu, tu te dis, mais pourquoi?
Tu vois, aller dans des villes où t'as au moins des potes qui peuvent en parler à leurs potes, et tu sais clair. Que t'auras un petit noyau de gens qui vont se marrer parce que.
Bah, grave, ouais. Et en même temps, à Paris, t'as d'autres choses. T'as la compétition, t'as la violence, t'as... Enfin, c'est compliqué quand même. Parfois, je trouve vraiment les femmes entre elles. C'est-à-dire, c'est un cliché, hein. Mais en fait, quand j'ai fait une story justement sur le féminisme, etc., et qu'on m'a dit « Ah oui, va découvrir Dora Mouto », et puis qu'ensuite, je suis allée voir Dora Mouto, mais qu'en fait, non, elle est transphobe. Alors en effet, je suis allée écouter son truc, c'est vrai qu'elle est un peu... C'est un peu... Mais je me dis, oui, en effet, la barre est haute. C'est un peu comme ce que tu dis du milieu queer LGBT. Le milieu féministe, parfois, il faut être à la hauteur de la précision de son point de vue.
Ouais, après, je me méfie. Enfin, je... Par rapport à ces polémiques-là et tout, je me méfie de ces discours-là pour ces personnes-là. Ouais. Parce qu'à un moment donné... il y a aussi des personnes qui sont dans un bloc, quoi. Enfin, ouais. tu leur fais, enfin, je pense qu'il faut aussi être ouvert aux critiques et et accepter qu'on sait pas tout, qu'on n'a pas toujours raison, etc. Ouais. Et encore plus quand c'est des personnes concernées qui viennent te le dire, en fait. Et du coup, je suis pas du tout pour le harcèlement et tout, mais ça m'attriste aussi de voir des personnes où tu leur dis si tu dis effectivement que les femmes trans n'ont pas leur place dans le féminisme, c'est pas normal, je comprends que ça me choque et que du coup si c'est ça ton point de vue, affiche-le clairement et du coup chacun a son truc et on est d'accord et on milite pas aux mêmes endroits, mais du coup je me méfie des personnes qui disent
si t'es pas née femme, t'as pas, c'est ça le truc.
C'est un point de crispation sur beaucoup de militantes, je crois, et moi c'est un nœud que j'arrive pas à comprendre. Je vois pas l'intérêt, en fait, de... Enfin, je comprends pas le délire, d'exclure les personnes trans de certains combats féministes, quoi.
Après, moi, je pense que le combat doit aussi se faire avec les hommes et qu'en fait, pour moi, en ce moment, j'ai l'impression que l'ennemi, c'est pas les hommes, mais le patriarcat.
Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Et que vraiment, le patriarcat, les hommes et les femmes en sont tout autant victimes. Et que... Alors, non, bien sûr, les femmes plus.
Je pense que
qu'en tout cas, t'as des femmes qui vont avoir... Vraiment, qui ont tellement intégré le patriarcat qu'elles vont avoir des discours misogynes pas possibles. Et que t'as des hommes qui... Non, finalement, se retrouvent dans le patriarcat et qui leur offrent des boulots, etc.
Je pense qu'ils ont à perdre. Enfin, comme dit ce que dit, je crois, Alice Coffin dans son livre, c'est que forcément, les hommes auront un peu à perdre dans cette... dans ce combat, quoi.
Ouais.
Ils auront à gagner, mais ils auront à perdre...
Tu crois? Parce que oui, mais t'as aussi c'est pareil, je sais plus, c'est Blanche Gardin. Oui, mais la pression de la virilité, c'est-à-dire que souvent le patriarcat, c'est aussi une espèce de vision ultra capitaliste de la performance de manière générale, de la production, et où en fait tel que l'homme viril qui réussit, qui a un travail, qui fournit, qui machin, je veux dire, c'est absolument pas l'endroit, et pas forcément que pour les hommes gays, enfin, même pour plein d'hommes qui sont pas dans des schémas... je veux dire, c'est aussi de la pression bander la taille de ta bite, etc. Alors, c'est pas les mêmes complexes que chez les femmes, la pression de la réussite, en fait, aussi, c'est-à-dire que tu vois, c'est aussi un truc qui est que être au chômage ou être au RSA, enfin, j'ai l'impression qu'il y a des ce que le patriarcat ou même, en fait, juste le luxe de pouvoir pleurer, en fait, tu vois, c'est-à-dire que à la fois je pense que les femmes sont discriminées. Mais je pense qu'on vit quand même des vies souvent, à mon avis, plus heureuses que celles des hommes. Et que quand tu vois les livres de Houellebecq, quand il parle de la misère affective, etc., c'est-à-dire que je pense que la question du refoulé...
Je suis pas d'accord, dans le sens où c'est quand même eux qui détiennent plus ou moins... Enfin, qui détiennent le pouvoir institutionnel, etc.
Ouais.
Et donc...
ils s'offrent des opportunités, ils se donnent du travail.
Il ne tient qu'à eux, de changer ça, tu vois. Si vraiment ils étaient si malheureux, on n'en serait pas là, pour moi. Enfin, et moi ce qui c'est le sujet un peu qui me...
Non, mais c'est
qui me tend, c'est... C'est, plein de potes je sais pas, avec des gens de ma famille, quoi, qui sont des hommes qui veulent être féministes et tout, mais je suis là genre, mais concrètement, vous faites quoi? Enfin, est-ce que vous donnez de la thune pour soutenir? Est-ce que vous... Tu vois, j'ai l'impression que... nous les meufs, on écoute des centaines de podcasts, des bouquins, des trucs. Et du coup, j'ai l'impression que ouais, en théorie ils sont avec nous, mais en fait,
dans la pratique,
du coup. Je pense que, typiquement, je crois que c'est un sujet aussi dans le milieu justement LGBT où c'est pas tous les gays qui sont féministes, tout. Donc,
Il y a plein de gays qui sont même 100% misogynes.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc du coup, je sais pas pourquoi je fais un lien, mais.
Mais c'est intéressant aussi ça. Moi, j'ai un copain, un pote gay qui pense vraiment que les femmes sont inférieures intellectuellement et c'est pour ça qu'il préfère faire l'amour avec des hommes.
Ouais.
Et moi, quand je lui dis, mais moi, tu me trouves bête, il me dit, non, mais toi, t'es un peu un homme. C'est particulier.
Que moi j'ai quand même des c'est pour ça aussi que maintenant j'essaye d'arrêter de dire anti-homme machin, mais je préfère dire patriarcat machin parce que j'ai eu des remarques, tu dis tous les hommes ou machin, mais tout le monde est gay, nous on n'est pas comme ça machin, et ce que j'entends et du coup je trouve ça intéressant, et en plus ça fait plus de sens de s'attaquer aux structures qu'aux personnes.
Mais qu'aussi il y a un truc qui est vrai, c'est que les mecs qui font le travail sont souvent rencontrent des femmes, et je m'inclus là-dedans, qui ont tellement intégré les schémas de domination qu'on n'est même pas prête à recevoir genre l'homme moderne et sensible, enfin, tu vois. C'est-à-dire que moi ça m'arrive de je sais pas aujourd'hui,
c'est-à-dire tu trouverais qu'il est trop mou, qu'il est trop fragile ou un truc comme ça.
Non, j'exagère, je sais pas, en fait je me demande si ça m'est vraiment déjà arrivé ou pas. Non, mais qu'en fait l'homme dur, c'est tellement un truc qui a été montré dans les films,
un cliché,
tu vois, dans Out of Africa, de l'homme qui est pas là, qui parle pas, qui est mutique, et puis qui s'absente, et puis la femme qui attend. C'est-à-dire que c'est comme le truc romantique,
c'est marrant, que
tu t'es habitué à ces figures romantiques, et que c'est rare, et qu'en fait faut vraiment être prête à au mec sensible qui danse et qui adore la musique, qui parle, etc. Et c'est vrai que
après, ça aussi, c'est un peu un cliché, j'avoue.
Moi, ma relation la plus longue, c'était avec un acteur, il était over sensible. Donc, je l'ai faite, la relation avec le mec plus, qui. Il est évidemment. Enfin, tu vois, il faisait son petit spectacle. Enfin, je veux dire, et même, il aimait se maquiller, enfin, tu vois, donc il était. Mais il était acteur, donc c'est.
Et enfin, je comprends le truc de. On est. Enfin, moi j'ai une pote qui est clairement féministe et tout, mais genre, quand tu l'entends, elle a. Non, il me faut un homme grand, protecteur, machin.
C'est ça. Et
comme si, finalement c'était trop tard, quoi. T'as été trop matrixée.
C'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait que les femmes hétéros ont une espèce de jalousie pour les femmes lesbiennes. C'est qu'on se dit, putain, le combat est plus facile, vous êtes libérée. Je me dis, et c'est pour ça quand j'écoutais.
Ouais, mais tu peux retomber dans des schémas où tu cherches.
Ça, chez une femme.
Meuf virile.
Intéressant.
Enfin, je pense que ça existe aussi, l'air de rien chez les lesbiennes.
Oui.
Quoi. Le truc, je sais pas si
les rapports de pouvoir, de domination. Femme, non, qu'est-ce que.
C'est c'était très surtout dans les années 70, où en fait les butch, c'est les lesbiennes plutôt camionneuses, cheveux courts, chemise à carreaux, machin, et femmes qui ont les cheveux longs, qui mettent des robes, machin, et au tout début c'était très dans ces formats là en fait. De butch pouvaient pas sortir ensemble, de femmes, enfin il y a vraiment une reproduction en fait un peu de du schéma hétérosexuel, même si c'était la butch, c'est quand même une forme de comment dire de redéfinition, enfin c'est une affirmation d'une autre forme de genre, etc. Donc c'est hyper intéressant, mais enfin, il y a un peu ce cliché aussi de moi je suis femme, du coup il me faut une butch. Enfin bref.
Mais
t'intériorises quand même. Tu peux intérioriser l'air de rien, même en étant lesbienne.
Complètement. Et même parfois, je sais plus. Je me souviens, j'avais une actrice lesbienne et on Et on jouait ensemble dans une pièce de théâtre et je sais plus, j'étais dans une espèce de chagrin amoureux et je lui demandais est-ce que c'est plus facile chez vous, genre, et elle me dit non, c'est encore plus dur.
Le drama queen.
Et c'est genre ah bon d'accord, mais et c'est pour ça que quand Virginie Despentes dit je me suis enfin libérée du regard des hommes, mais je sais pas. Parce que je me suis dit, mais en fait, oui, sauf que même la question de la beauté, de l'esthétique, enfin, c'est très dur. Il y a aussi des standards de beauté aussi, parfois, enfin, je veux dire, entre femmes, dans les boîtes ou dans les machins, où tu vois, où avoir un métier cool, avoir de la personnalité, enfin, tu vois, je veux dire, entre guillemets, presque toi, en faisant du stand-up, t'es hyper privilégiée, mais est-ce qu'une nana qui a genre un métier moins fun ou qui ne brille pas sur scène...
Après, je pense que c'est moins... Enfin, comme on est quand même toutes des femmes, il y a moins quand même ce truc, je pense, de... D'ailleurs, Despentes, elle en parle, du fait que... non, c'est qu'elle est complexe moins, effectivement.
Elle est moins complexée, elle accepte de se voir vieillir, maintenant qu'elle se voit regarder
par les femmes. Mais même économiquement, ça l'a gênée, voilà, de gagner plus potentiellement qu'un mec, parce qu'il y a tout ce truc de...
Mais ça, je trouve ça... Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu penses que... L'idée de se voir vieillir, d'accepter tout
ça. Ah ouais, ça, je suis grave d'accord avec. Déjà, moi, j'avais beaucoup de complexes avant. Je pense que le milieu lesbien m'a quand même aidé à me débarrasser de... Enfin, à être plus à l'aise dans mon corps. J'étais hyper complexée de mon nez, mes cheveux, même mes poils, tu vois, maintenant je me laisse pousser les poils de gens, mais en fait je m'en fous parce que après ça dépend des endroits, mais je sais que dans le milieu queer c'est ok, enfin je veux dire les meufs elles s'en foutent si j'ai des poils, tu vois, et enfin il y a des mecs aussi hein, mais peut-être plus que les mecs hétéros, et du coup il y a et même c'est une forme de fierté, de... Enfin, je me souviens que même moi, ça me fascinait, en fait, au tout début ou de mes premières années lesbiennes, de voir des meufs qui avaient des poils sous les bras et elles s'en foutaient. Elles chopaient quand même plein de meufs. J'étais là genre, waouh. Et du coup, je comprends le truc. T'as moins de pression, en fait, parce que comme de base, t'es dans la marge, t'es pas dans la norme, en fait. C'est ce qui a été dit d'ailleurs sur le truc de pourquoi c'est Adèle Haenel qui quitte les Césars, machin, parce que il y a des gens qui ont pointé vraiment le fait que les deux meufs qui partent, c'est des lesbiennes, c'est une Siama. Parce que, en fait, quand t'es lesbienne, t'es déjà en marge, t'as rien à perdre. Et je comprends ce truc-là de Despentes qui dit je m'en fous de vieillir. Je suis un peu apaisée par rapport à ça. Je pense que t'as moins de pression. D'une certaine façon, t'as moins de pression, mais tu sais que tu seras jamais, entre guillemets, dans les rangs, quoi.
Alice Coffin a fait vraiment, vraiment avancer la discussion dans le bon sens. Hein.
Alice Coffin, Moi, ce qui me... Peut-être que j'admire plus pas forcément l'écrivaine, mais en tout cas, je trouve que c'est une vraie militante. Enfin, je veux dire, tous les trucs qu'elle a créés, la barbe, pour la PMA. Enfin, pour moi, c'est vraiment une femme à qui on doit la PMA, tellement d'avancées des lesbiennes et tout. Je suis vraiment inspirée par la militante de terrain, quoi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui... Justement, à part les collages, pour moi, qui sont vraiment un truc hyper innovant, je trouve que beaucoup de choses se passent dans la parole et dans les écrits, et plus trop...
Complètement, plus trop dans l'action.
Après, on n'a plus trop les moyens, je veux dire, de démarquer
des salles. Non, mais t'as raison, c'est l'un des soucis, c'est qu'il faut que la sororité, elle s'exprime dans les faits. Et que moi, j'essaye toujours Enfin, c'est tout bête, mais si je vais jouer...
Genre adhérer au collectif 50-50.
Adhérer au... Évidemment.
Hyper
Et concret aussi. Oui, mais je crois que ce qu'il faut, et ça, c'est un truc peut-être de l'empowerment de droite, mais parce qu'apparemment, tu sais, t'es un féminisme américain mais que moi, je trouve assez malin, qui est de comment offrir des... position professionnelle aux femmes. C'est-à-dire qu'en fait, t'as des stages où ils déconstruisent et où en fait, t'as des femmes qui disent « Ok, comment je vais tendre la main et faire monter une autre femme ?» Et ouais. Donc, et ça, je crois qu'en fait, se donner des opportunités professionnelles entre femmes. Alors moi, en effet, je le faisais pas à travers ce podcast, mais ma metteur en scène est une femme, et à ouais. chaque fois que j'ai eu la possibilité de recommander quelqu'un, ou d'aller jouer dans un théâtre, ou de machin, ou de penser, eh ben, j'ai toujours... me suis toujours dit, tiens, eh ben, je vais balancer ou ouais, je vais donner, clair. Tu vois. Et ça, en fait, c'est pas toujours le cas. Et c'est, en effet, c'est quand il faut sortir de la parole. C'est que ça suffit pas de faire des stories.
Ouais.
Et qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Il y a beaucoup de...
Ouais, parce qu'il y a la mode.
Oui, quoi. Voilà. Et que parfois, il faut aussi avoir le cœur. Tu vois, par exemple, je pense à une autre Marina. Ta Marina Rollman, qui elle est féministe. Dans oh, les, elle l'est dans ses mots et elle l'est activement puisque ouais. elle donne beaucoup d'opportunités aux femmes. Moi, elle m'a permis de faire sa première partie
ouais.
et de grandir en fait. Enfin, ouais, en tant que personne, quoi. Enfin, elle est trop inspirante. Mais ouais, une autre Marina, c'est Marina Kars, qui est beaucoup moins médiatisée ni rien.
Ouais, c'est clair.
Et
alors que je trouve qu'elle est vraiment, elle me fait beaucoup rire moi.
Et elle est très drôle, elle est très humaine et en fait, c'est une alliée. Moi je sais qu'au tout début quand je voulais jouer au Panam, Marina Kars, et je lui disais putain je suis pas programmée, c'est elle qui allait parler de moi à Karim qui lui a dit pourquoi tu fais pas jouer Rosa. Quand elle jouait son spectacle à l'Apollo, elle m'a fait plusieurs fois faire sa première partie et elle prenait une autre nana et elle a vraiment pris le temps et en fait elle s'est jamais rendue ou revendiquée rien. Mais
dans les faits, voilà.
Mais dans les faits, en fait, elle a ce réflexe de travailler, donc de donner. Et ça, je trouve ça chouette et beau, quoi.
Ouais, je trouve ça cool, moi aussi.
Tu vois ?
Je trouve ça assez inspirant, ouais.
Ouais, quand c'est genuine parfois et qu'il n'y a pas de... C'est la seule peur que moi j'avais en fait quand j'ai commencé à contacter tous ces comptes Insta en leur proposant de venir voir mon spectacle, c'est que je me suis dit merde, est-ce qu'en fait j'instrumentalise mon féminisme, tu vois, je me suis dit mais en fait, et comme certaines marques de vêtements qui mettent féministe pour vendre des trucs, des machins, etc, comme
les
ça fait, tu vois, les défis, comme tout d'un coup c'est en train de devenir un argument commercial, et je me dis j'ai pas envie d'être cette tu vois. Et que je trouve que c'est pour ça qu'il faut faire attention.
Ouais, c'est clair, ouais.
Ouais.
Mais après, je pense que si toi, dans ton cœur, c'est vraiment ça qui compte.
Ouais, puis je pense que c'est hier soir, je voyais, il y avait un live de Orgasme et moi, où elle resplendit, cette nana. C'est incroyable.
C'est parce que c'est une première orgasme.
Non, mais mais vraiment, je pense que la question du plaisir est tellement. Ça se voit, quoi. Parfois, physiquement, ça se voit aussi. Et elle était là, donc elle faisait le live avec une femme, je crois, d'origine indienne, avec des lunettes et qui était assez ronde, et genre toutes les deux tu disais mon dieu, c'est ça l'avenir, et c'est ça que j'aurais voulu voir, et que tu vois, je veux dire, en fait moi c'est déjà trop tard parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté d'acheter Elle, mais pendant un temps quand même on partait, tu sais, d'acheter les magazines féminins, Elle,
oui,
Biba, etc, et Closer et trucs, et une idée de la maigreur et une idée de la blanchitude et de machin, etc, et tout, et du cheveu lisse ou du machin, et tout ça, mais qui te fucked up et qui te complexe. Et elles parlaient du périnée. Et c'était trop beau, en fait. T'avais quand même 1200 personnes, et elles étaient là sur le live en train de dire « Alors, on va faire un exercice, et on va serrer l'anus. » Et en fait, elles étaient là en train de, genre, donner des tips pour se raffermir le périnée, pour avoir plus de plaisir. Je suis là, ok, en fait, ça va aller. on va y arriver grâce... Je veux dire, et c'est...
On progresse.
On est sur le bon chemin... Mais c'est vrai qu'il faut
muscler son périnée.
Il faut muscler son périnée. ça serait le mot de la fin. Muscler son périnée. Et merci Tani.
Merci à toi.
Attends, mon chat t'a trop violé, quoi. J'espère que cet épisode vous a plu. De l'effet du film La vie d'Adèle sur Tani à mes comparaisons entre judaïsme et féminisme, je crois qu'on a brassé pas mal de sujets. Vous verrez, certains questionnements sont aussi abordés dans l'épisode 36 qui sort dimanche et 37 qui sort lundi. Je poursuis ma thèse de l'empowerment dimanche pour totalement la démentir lundi. Mais vous avez suivi les hauts et les bas de mes humeurs qui doivent jouer sur mes idées pendant toute cette période très je vais pas dire challengeante, hein, parce que ce serait encore être du côté de l'empower, du féminisme de droite, mais bon, oui, je me contredis souvent, voilà, j'évolue, je régresse, je change, je me braque, je me laisse influencer, j'écoute vos retours, et à présent, je vous propose de finir cet épisode en écoutant les réponses de Stani au questionnaire de Proust.
Alors.
La qualité que tu préfères chez un homme?
Je sais plus qui avait dit ça, mais quelqu'un avait répondu l'humilité.
Oui.
Et je trouvais ça bien.
C'est Marina. C'est vrai que c'est une putain de réponse. La qualité que tu préfères chez une femme?
L'humour, je crois.
Ouais.
Ouais.
Le principal trait de ton caractère?
Je dirais... je pense... l'optimisme, un truc comme ça.
Mmh.
Enfin, j'essaie toujours de voir le positif, quoi.
Ouais, c'est bien. On a besoin de gens comme toi. Ton principal défaut?
Je pense que je suis têtue.
Mmh.
Et un peu égoïste parfois. Mais mmh. Bon, voilà quoi. J'essaie de...
Ce que tu détestes? Ouais, ouais. Ou c'est Marina qui dit que l'égoïsme, en fait, il en faut un peu aussi. Elle a pas tort.
Je pense que c'est vrai, mais il faut à bonne dose, quoi.
Ouais, 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 c'est clair. Tu sais que mon chat est vraiment fou amoureux de toi parce que, déjà, genre, quand j'ai monté l'épisode, je me suis souvenu qu'il était plusieurs fois monté sur toi. Et là, c'est dingue parce que, je sais pas, il a entendu ta voix et il s'est rapproché du téléphone. Donc, t'as vraiment, genre, une énorme touche avec Minou, quoi. Ouais, c'est un amour impossible, je vais devoir lui annoncer la nouvelle.
C'est clair.
Les fautes qui t'inspirent le plus d'indulgence?
Les fautes qui m'inspirent le plus de quoi?
D'indulgence. Je sais pas, peut-être les... Ouais. Est-ce que... la maladresse des mauvaises féministes pas encore tout à fait woke?
Oh là là.
Les femmes qui...
Non,
qui...
Ouais, enfin remarque. Peut-être, je sais pas, non, mais après, tout le monde se trompe.
Ouais.
Je sais pas, en ce moment, j'essaie de pas faire attention aux fautes d'orthographe.
Ah ouais, ouais, j'essaie c'est
de
vrai.
Comprendre le truc et ouais.
Mm. Enfin, est-ce que t'as une devise favorite?
Une devise favorite? Un peu peut-être un truc en ce moment là, de truc LGBT. Enfin,
ouais.
Genre,
ouais.
J'aime bien dire aux gens, ben, en fait, soyez qui vous voulez être.
Quoi. Ouais.
N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre.
Mmh.
Ouais.
Ouais, c'est bien, c'est vrai. Carrément. Merci Tani, trop bien.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.